Toi, tu peux aller, Daniel, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'appelle Pierre-Alexandre Moreau, j'ai 26 ans et je suis président des cinémas studios depuis plus de 2 ans maintenant. Ça consiste en quoi? C'est présider le conseil d'administration des studios et le directoire, c'est-à-dire coordonner au quotidien la structure que composent les studios. Donc ça va être résoudre des problèmes très très variés, du personnel en passant par les partenariats ou des problèmes techniques. Enfin, c'est voilà, ça regroupe tout l'aspect gestionnaire, on va dire, des studios, pour faire court.
Bon, alors, moi je suis Daniel et je fais partie d'une commission qu'on appelle la commission de programmation. C'est-à-dire qu'on construit la grille des films mois après mois. Voilà. Et en face de moi se trouve Jacques, à qui je laisse la parole.
Donc Jacques, oui, moi j'ai intégré la commission programmation il y a un peu moins de 3 ans maintenant, donc je travaille avec Daniel. Nous sommes 6 membres actifs, plus une salariée qui s'occupe de la programmation avec nous, qui s'occupe des contacts avec les distributeurs. Donc on se réunit une fois par mois.
Merci pour cette petite présentation. J'aimerais qu'on parle, avant de parler évidemment des cinémas studios dans une seconde partie, dans la deuxième partie de l'émission, j'aimerais qu'on parle du cinéma parce que, évidemment, en France, on est très attaché au cinéma puisque c'est pratiquement une invention française. Où en est le cinéma aujourd'hui? Est-ce qu'il est dans une impasse? Est-ce qu'il y a une sorte de crise dans le cinéma actuel? Qu'est-ce que vous, en tant que...
On peut répondre tous les deux.
En tant que président et puis de membre de cette association, vous pensez de ça?
Alors, il faut peut-être distinguer deux choses, la création cinématographique et l'exploitation cinématographique, ce qui implique toute la chaîne production, distribution, salle de cinéma, d'exploitants, etc. Alors, votre question importe sur les deux aspects ou sur la...
Oui, parce que c'est vrai qu'il faut bien le distinguer, il y a vraiment plusieurs secteurs et vraiment... Deux façons de voir les choses. La question porte sur les deux aspects.
D'accord.
Comment se porte aujourd'hui le cinéma sur ces deux points-là?
Pour ce qui est de la création, elle se porte bien en France, hein, puisqu'on est l'un des pays qui soutiennent le mieux production et réalisation de films. Et sur le versant exploitation, c'est la même chose. On est l'un des pays, sinon le pays, où le maillage en salle de cinéma est le plus riche. Hein, aller en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, c'est catastrophique. Enfin bon, bien qu'il y ait des évolutions. Je laisse la parole.
Oui, pour acquiescer et compléter, en termes de création cinématographique, donc les films qui sortent, il y en a de plus en plus. Ce qui pose aussi des problèmes. Il sortait il y a 10 ans 400 films par an, il en sort aujourd'hui 700, donc c'est bien qu'il y a une émulation, il y a une vraie création autour du cinéma.
Alors là, tu parles au niveau international.
Là, 400 en France.
Ah oui, tu parles de la France.
Là, je parle en France.
Oui, alors, arrivent en France, sortent en France, mais ce ne sont pas des films... forcément français,
non.
Hein, entre 15 et 20 films par semaine.
Toutes nationalités confondues.
Voilà.
Et on a, je suis assez confiant pour le cinéma en France, parce qu'encore une fois, ce qui se passe à l'étranger, c'est assez dramatique. En Allemagne, en 10 ans, ils ont perdu 30% de leur salle. Voilà. Notamment dû au numérique, du passage au numérique, où ils ont dû acheter... leur projecteur numérique qui coûtait à l'époque entre 90 000 et 100 000 euros le projecteur numérique, et donc de nombreuses petites salles rurales et des petites salles même dans les centres urbains ont dû fermer, en Italie aussi, en Espagne c'est avec les crises en Espagne ça a été catastrophique, je crois qu'il y a plus la moitié des salles qui ont fermé avec la crise de 2008. En France on a une spécificité qui fait partie de l'exception culturelle. qui a été faite dans l'esprit de la résistance après 45, avec la création du Centre National de la Cinématographie, le CNC, qui est un système unique au monde, qui finance toute la chaîne du cinéma, mais qui s'autofinance. Voilà. C'est quand une personne va au cinéma, pour faire simple, dans n'importe quel cinéma en France, voir n'importe quel film, même si elle va voir Avengers au CGR, il y a en gros 10% de cette somme qui revient au CNC, qu'on appelle la TSA. Voilà. Et ce pot commun, du coup, permet de nourrir à la fois la production, la distribution, mais aussi l'exploitation de films. Nous, concrètement, quand on fait des travaux, quand on construit une salle, on peut avoir de l'argent du CNC grâce à ça. Et quand je parle avec d'autres exploitants à l'étranger, ils sont assez hallucinés de voir ce système.
Oui, parce que finalement, l'exception culturelle française, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est un peu... C'est dans les têtes, dans les esprits, mais c'est vrai que c'est un secteur, en tout cas en France, qui est largement aidé, notamment par le CNC. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, notamment nombre de salles. Alors, des chiffres qui datent de 2015, il y aurait en France à peu près 2200 salles de cinéma, un petit peu moins. Alors, ça a peut-être évolué depuis 2 ans, mais...
Alors, ça,
il y a un nombre d'écrans qui est de 5300.
5000 écrans, voilà. Voilà, oui.
Et à peu près 2200 salles. Dans d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, vous l'avez signifié, c'est que 1800, sachant que c'est quand même un pays qui a plus de population que la France.
20 millions de plus.
Ouais. Voilà. L'Espagne, c'est 1200 salles pour un pays qui est... pas tout à fait aussi grand que la France, évidemment, mais qui est relativement comparable. Et au Royaume-Uni, c'est 766 salles.
Pour un pays
qui est donc similaire à la France en termes de...
C'est vraiment
de
dramatique ce qui se passe à l'étranger en termes de cinéma. Il y a aussi, après, si on va plus à l'Est, en Roumanie, etc., il n'y a plus de salles indépendantes. Parce que là, vous parlez des cinémas globalement. Mais ce qui est intéressant de voir dans ces chiffres-là, c'est quelle part, on va dire, des cinémas indépendants, des cinémas RSC, et la part est vraiment congrue. Il y a en gros 2200 cinémas en France, la moitié sont des cinémas RSC, voilà. La moitié sont des cinémas classés RSC, ce qui est aussi unique au monde. Daniel parlait du maillage territorial qui est très dense en France et qui a un vrai intérêt sur le plan, je dirais, international au niveau de l'RSC. Pour donner un exemple concret, le dernier film de Moi, Daniel Blake, de Ken Loach, 40% des entrées mondiales se sont faites en France. Voilà. Donc, grâce à ce réseau de salles indépendants, alors que le Royaume-Uni, dont le film vient, représente que 25%.
Cinéma indépendant, est-ce qu'on pourrait définir finalement ce qu'est ce cinéma-là? Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant? Qu'est-ce que le cinéma indépendant?
Bon, d'abord, il ne dépend d'aucune collectivité territoriale, ni municipale, ni départementale, ni régionale. Et il a été fondé en toute indépendance et il a jalousement préservé et défendu son indépendance politique, culturelle depuis 50... on doit être à 5, 54, là,
54
maintenant.
Ans
54 ans. Ça veut dire que financièrement, on est dans l'indépendance et la gestion par nos propres fonds, par nos entrées, etc. Culturellement, la programmation, elle est faite au studio par les membres de la commission de programmation. On n'est pas programmé par un réseau de salles, comme c'est très fréquemment le cas en France. Voilà, principalement, voilà ce que signifie un cinéma indépendant.
Voilà. Quelque chose à rajouter ou...
Et je compléterai sur l'aspect RSC, c'est montrer les nouvelles écritures, les nouvelles cinématographies, les nouveaux talents et des films qu'on veut porter, on va dire, culturellement et artistiquement.
RSC, c'est un label, c'est ça?
C'est un label, voilà. C'est un label défini, donc il y a deux... Alors, quand on parle d'RSC, on peut parler à la fois d'un film qui est labellisé RSC et d'une salle qui est labellisée RSC, voilà. Une salle labellisée RSC, c'est qu'elle aura un quota selon la grandeur de la ville, selon son nombre de salles. Et si elle rentre dans ce quota de films à RSC qu'elle passe, on appelle ça un film à RSC, voilà. Et ça concerne 1000 salles en France.
Et les filles, oui, il me semble 1200 avoir vu ce chiffre-là. Est-ce que c'est possible, oui. 1200 salles à RSC?
Ouais, je crois que c'est à peu près ça, c'est 1150.
Mais ça veut dire quand même,
de mémoire.
Il y a la moitié des salles qui sont à RSC.
Absolument.
Donc il y a vraiment une demande de, finalement, de films à petit budget et indépendants, parce que la RSC, c'est aussi promouvoir les films indépendants.
Mm-hmm. Alors,
oui, alors la notion de cinéma d'art RSC, elle est assez floue et assez large. Mm-hmm. Hein, on peut y faire entrer des films très très pointus. Par exemple, le film du mois des studios La Belle et la Meute, bon, c'est un film découverte et recherche, à RSC, certainement. Bon, mais il est arrivé que des Tarantino ou des Ozon soient labellisés à RSC. Vous voyez que l'éventail est extrêmement large. Quoi.
Mmh. Il y a ce qu'on appelle, pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et c'est sur ces films-là, voilà, on passe au studio en gros 500 films par an. Et c'est les 50 premiers films qui nous font la moitié des entrées. Donc voilà, 10% de films nous font la moitié des entrées, et ça va être, je pense à La La Land, voilà, ça va être Tarantino, ça va être ce qu'on appelle un peu des blockbusters arrêts, ça va être des gros films, enfin des films qui ont une portée à la fois artistique et commerciale.
On parlait tout à l'heure du nombre de salles en France de cinéma. J'aimerais qu'on parle d'un autre chiffre, puisque la fréquentation est globalement en hausse, plutôt en hausse en tout cas, la fréquentation des cinémas. Pareil, si je me réfère au chiffre de 2015, il y avait à peu près 205 millions d'entrées signées en France, ou en tout cas, voilà, 205 millions d'entrées en France sur l'année. En revanche, en 1938, c'était 452 millions d'entrées. Qu'est-ce qui explique que l'âge d'or d'avant Seconde Guerre mondiale, enfin l'âge d'or du cinéma d'avant Seconde Guerre mondiale, ne s'est pas reproduit finalement après-guerre?
Ah bah, je crois qu'il y a des raisons. D'abord, un âge d'or ne se retrouve jamais, par définition.
Effectivement, c'est le paroxysme, le point culminant, effectivement.
Vous avez bien vu qu'en un demi-siècle, le nombre d'accès à l'image, et l'image qui bouge, et notamment avec la télévision, pour ne parler que d'elle, s'est développée d'une manière exponentielle. Donc pour un amateur d'image qui se satisfait de la télévision, bah, voilà, il trouve son compte dans les programmes de télévision, qui programment eux-mêmes beaucoup de cinéma. Bon, c'est l'une des raisons. Après, il y a des raisons sociologiques du rapport au loisir, qui font qu'il y a eu une évolution, notamment dans la tranche d'âge jeune, puisqu'aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, l'accès, là aussi, à l'image se fait sur de multiples écrans. Hein. On ne va pas vous l'apprendre. Voilà, moi, c'est les réponses très, très globales que je donnerai. Mais
ouais.
C'est vrai les évolutions technologiques, pour le coup, elles expliquent en grande partie ce phénomène. Ouais.
Alors, j'avais pas ce chiffre de 1938, mais on est clairement sur une stabilité, voire une augmentation depuis les 20-25 dernières années. Voilà. On est là, justement, le rapport au numérique qui était censé créer une sorte de bouleversement dans l'économie du cinéma, comme elle a pu le faire au niveau du livre, au niveau de la musique, ne s'est pas produit. Les jeunes vont toujours au cinéma. Les jeunes vont voir toujours des films au cinéma pour l'expérience de la salle, pour l'expérience collective, pour une qualité de voilà, pour une qualité qui retrouve pas forcément chez eux. Ce qui m'amuse toujours, c'est que le cinéma a toujours crié à sa perte quasiment depuis le début, en fait, ouais, depuis 1895. Toujours amusant de retrouver les écrits des journalistes à l'époque qui parlaient en 1895 d'une forme qu'allait s'éteindre très rapidement, ça va être un effet de mode assez rapide. Et puis après, quand ça a pris de l'importance, ils ont dit que, de toute façon, les technologies suivantes allaient écraser le cinéma. Donc c'était la radio où chacun pouvait voir chez soi directement des histoires, puis la télévision, puis le magnétoscope, puis le home cinéma, le lecteur DVD, internet. Et on voit que malgré tous ces bouleversements et technologiques, économiques, les gens vont toujours au cinéma. Je pense que on peut expliquer ce film de 1938 parce que voilà, il y avait beaucoup moins de loisirs entre guillemets et beaucoup moins d'éventails de propositions qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà, si on compare juste sur 20-25 ans avec l'arrivée d'Internet, il n'y a pas eu de bouleversement de la consommation, on va dire, des salles de cinéma. Là, c'est en parlant globalement pour le cinéma, ce qui est moins vrai pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire les cinémas RSC, où c'est un vrai enjeu, autant chez nous, au studio, qu'au niveau national, dans les salles RSC, une vraie réflexion qu'on a, c'est-à-dire comment capter des jeunes qu'on a du mal à capter. On voit un vieillissement de la population cinéphile et qui ne se renouvelle pas comme elle s'est déjà renouvelée. Donc il y a des questions qu'on se pose, des problématiques qu'on se pose et qui sont assez ouvertes.
Je rebondis sur ce que vous dites sur l'histoire du cinéma, parce que c'est aussi important finalement, puisque sans la découverte évidemment du cinéma, on ne serait pas là en train d'en débattre. 1895, ça fait référence à l'entrée en gare de la Ciotat des Frères Lumière, c'est ça?
Absolument.
Puisque finalement, c'est eux qui ont lancé le cinéma mouvant. En tout cas, après, il faut aussi le dire, il y a un certain Émile Reynaud qui avait inventé le praxinoscope juste avant, ou une dizaine ou une quinzaine d'années avant, qui était en fait un espèce de jouet animé qui faisait défiler des images et qui donnait cette impression de mouvement. Bon, c'est évidemment un siècle plus tard, fin du XXe siècle, le cinéma a complètement évolué. On est passé dans des salles immenses, avec énormément de sièges. Mais comment va évoluer maintenant ce cinéma-là avec justement l'essor du numérique et des nouvelles technologies, selon vous?
Le problème du numérique, là, aujourd'hui, c'est que c'est devenu un petit peu moins cher de produire des films. Et c'est ça qui fait que, il y a de plus en plus de films qui sortent. Et c'est ça aussi qui est un problème en même temps, parce que les distributeurs sont amenés à se battre d'une manière de plus en plus féroce pour placer les films, qu'ils ont, à nous proposer. Et donc, ça, effectivement, il va y avoir beaucoup, beaucoup de difficultés liées au numérique. Maintenant, comment ça va évoluer, je sais pas. Daniel peut-être pourrait en parler mieux.
Après, c'est un peu le moment prophétique de l'émission. Faut deviner, parier.
Techniquement, on voit que il y a une grosse recherche d'effets spéciaux, de salles avec, comme on dit aujourd'hui, immersion du spectateur. Donc, toutes les technologies sont mises à contribution pour une nouvelle expérience peut-être de l'image et du son, grâce au numérique principalement.
Est-ce que les cinémas studios, c'est quelque chose vers lequel l'association tend et essaye de...
Absolument. Là, on voit qu'il y a une réflexion, c'est ça, un peu global dans tous les cinémas sur la salle immersive, voilà, en termes sonores, avoir le Dolby Atmos. Et puis d'autres cinémas parlent même de cinéma premium, de siège premium, etc. Je pense que c'est une partie la solution. Enfin, même si ce terme de séance premium, j'adhère pas du tout à ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément l'avenir. Enfin, clairement, ce qu'ils appellent les salles premium. Ça va être juste vendre sa place 5 euros ou 10 euros plus cher pour faire plus de bénéfices. Je pense que ce qu'il faut mettre en avant pour le cinéma de demain, c'est le côté aussi humain. C'est l'expérience humaine, c'est l'expérience collective. C'est, contrairement à des cinémas très commerciaux, montrer qu'on a un rapport à l'humain et au spectateur qui est différent, qu'on n'estime pas que le spectateur soit forcément un consommateur, mais qui est là aussi pour voir une œuvre, pour un partage avec d'autres personnes. Voilà, c'est mettre en avant cette expérience humaine, mettre en avant cet aspect social et humain. Voilà, c'est un vrai réseau social, je pense, dans le sens le plus pur.
Moi, je voulais insister aussi sur les limites de la technique. On a vu récemment avec la 3D, par exemple, que des effets spéciaux, tout ça, ça marche pas toujours. Ils ont pourtant essayé de vendre beaucoup ces techniques-là et on voit que ça prend pas, ça marche pas forcément.
Alors, je voudrais rebondir d'une autre manière. Au studio, on est très très attentif à la qualité technique des projections. Et ça, c'est le premier service qu'on puisse rendre aux spectateurs. Voilà. Après, il y a d'autres services sur lesquels on est très à cheval, comme par exemple l'information des spectateurs, le respect des programmes annoncés, et puis une politique de prix qui défie pas mal de concurrents.
Messieurs, je vais vous proposer tout de suite un petit quiz. Je vous en ai parlé hors antenne. Je mets le jingle et je vous pose quelques petites questions sur le cinéma.
Ça fait peur.
Première question, est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez me dire le plus gros carton au box-office mondial en termes de recettes ?
Quand ? De 2016 ?
De tous les temps.
De tous les temps ?
De tous les temps.
Alors, moi, je dirais Avatar.
Avatar ?
Moi, je ne sais pas.
C'est plus ancien ?
Eh ben, c'est Avatar. Effectivement, c'est Avatar avec...
Bravo Pierre-Alex.
Les chiffres sont assez énormes. Hein. 2 milliards 787 millions. Ouais. Et j'oublie les quelques autres chiffres qui vont avec. Mais 2 milliards 800 millions de recettes.
Ah ouais, c'est...
Pour un coup, il faut aussi le dire, de 237 millions d'euros. Mmh. Le film. C'est un des films les plus chers aussi qui a été produit. Enfin bon, bref, c'est des films assez énormes. Question numéro 2. Quel film français a fait le plus d'entrées en France, du coup ? De
ça,
tous les temps,
ça
pareil.
Ça va être toujours la même chose, hein. Ça va être La Grande Vadrouille ou un truc comme ça. Je dirais, ouais. Genre un film avec des funesses.
La Grande Vadrouille arrive, il me semble, en 2e ou 3e position, mais c'est pas La Grande Vadrouille. C'est un film beaucoup plus récent, une comédie qui a...
Ah bah oui, Intouchable.
Bienvenue chez les ch'tis.
Ah là, c'est toujours bienvenue chez les ch'tis, voilà, décidément.
Qui est pas un chef-d'œuvre.
Avec environ 20 500 000 entrées.
Ah ouais.
Ce qui est aussi assez énorme.
Mais
ça fait un tiers de la population,
exactement.
Finalement.
Et je dis c'est pas un chef-d'œuvre, mais en même temps, sachant que ces 20 millions d'entrées financent aussi le cinéma. Donc, quand on va voir Danny Boone au cinéma, on finance quand même le cinéma indépendant, on finance quand même les salles arrêtées, quoi. Donc, c'est toujours gagnant que le cinéma fonctionne.
Troisième question. Est-ce que vous pouvez maintenant me citer le film le plus cher en prenant en compte l'inflation ? C'est-à-dire le film le plus cher de tous les temps qui a coûté le plus cher, mais en prenant en compte l'inflation.
Je sais pas, genre...
Ah, c'est plus dur là. Hein.
Genre Casablanca, non, je dirais un truc comme ça. J'ai pas dit.
Non, c'est pas.
Non, c'est pas Michael Cimino avec.
Heaven's Gate.
Heaven's Gate, oui. Les portes du paradis.
Les portes du paradis. Oui.
Non.
Oui, parce qu'il a ruiné son producteur.
Non, le film, c'est Guerre et Paix, 1966, 350 millions de dollars.
En équivalent, du coup, aujourd'hui, c'est énorme.
En équivalent. Ouais, alors,
ça.
Évidemment, à l'époque, il ne coûtait pas ce prix-là.
Ah ouais, ça, mais en équivalent. Ouais,
et puis,
c'est énorme.
Ouais, effectivement, c'est assez énorme, 350 millions de dollars.
Guerre et Paix, ouais.
Ouais. Suivi après de Cléopâtre en 1963 et de Titanic plus récent en 1997. Quatrième question. Qui a réalisé Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson?
C'est
ce fameux film.
Le tchèque.
Ah, on est sur la bonne voie.
Miloš Forman. Voilà.
Miloš Forman, effectivement. Tchèque, Miloš Forman. Dernière question, vous en sortez pas trop mal. Hein.
L'honneur est sauf.
C'est une question d'année. En quelle année est sorti le fameux film de Fritz Lang, M. le Maudit ? Un film assez sombre d'ailleurs qui retrace la chasse d'un.
Oui, au milieu des années 30, mais.
On n'est pas loin, mais c'est au début des années 30 puisque c'est 1931. Voilà, et en 1927, il sortait Metropolis. C'est deux films phares du réalisateur allemand.
Et entre les deux apparaît le cinéma parlant.
Effectivement, oui. Et d'ailleurs, M. le Maudit, c'est son premier film parlant à Fritz Lang, effectivement. Et ben voilà, c'est fini pour le quiz. On va pouvoir passer maintenant au cinéma studio.
non, c'était... On va pouvoir se détendre.
L'honneur est sauf, voilà. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez un peu l'histoire des cinémas studios. J'ai entendu dire que les bâtiments avaient été... Enfin, ils ont brûlé en février 1985. Est-ce que vous pouvez me parler de cet événement ? Oui, ou c'est quelque chose qui...
Oui, enfin, à l'époque, c'était en février, je crois.
Oui, c'est février, ça, 26 février 1985.
Il passait un film de Godard, Je vous salue Marie, si je me souviens bien. C'est ça, Daniel, hein, je crois. Et il y a eu une polémique. Est-ce que c'était accidentel ou bien est-ce que c'était politique, etc. On ne savait pas donc si quelqu'un avait mis le feu au cinéma studio pour protester contre la sortie de Je vous salue Marie, qui était un film très polémique, ou bien si c'était accidentel. Apparemment, c'était peut-être quand même plutôt accidentel.
Mmh. Oui, mais enfin, en 85, les studios avaient déjà 32 ans, si je ne me trompe pas.
Alors du coup, ça a été créé en quelle année?
En 63.
63. Oui. Donc ça fait quand même un petit moment que vous êtes dans le paysage de la ville de Tours et le paysage cinématographique.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me parler de la programmation? Comment vous gérez du coup la programmation des cinémas studios? Quels films vous mettez plus en lumière et quels autres films vous essayez d'éviter?
Bon, je pense qu'on fait, mais tu en parleras Jacques aussi, je pense qu'on fait une programmation qui veut être équilibrée entre films large public et films plus pointus, films d'auteur comme on dit. Et il n'y a pas d'hierarchie, on met un petit peu tous ces types de films dans la programmation, hein. Regardez nos programmes. Et alors ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question, ce qu'on met en lumière sont des films qui ne bénéficient pas forcément d'un fort battage médiatique. Par exemple, ce qu'on appelle le film du mois, qui est un film que l'on met un peu en avant. Ce mois-ci, bon, c'est La Belle et la Meute, un film tunisien, voilà, qui n'a pas bénéficié de beaucoup de publicité, mais nous, on a estimé que ce film était intéressant à plusieurs titres, hein, esthétique, politique. Voilà un peu l'esprit dans lequel on travaille.
Comment sont prises les décisions par rapport à ça? Est-ce que c'est collégial? Est-ce que c'est une personne qui s'en occupe particulièrement? Comment vous gérez un peu tout ça?
Alors, c'est collégial, je te laisse.
Oui, enfin, donc on est, comme on disait tout à l'heure, on est 6 membres actifs, plus la directrice adjointe des studios, Roselyne, là, qui est chargée des relations avec les distributeurs, donc qui est sans arrêt en communication avec eux, par téléphone, par courrier électronique. Et c'est souvent un petit peu compliqué parce qu'on a 7 écrans, et comme je crois que c'est Daniel qui disait tout à l'heure qu'on a environ 15 à 20 sorties hebdomadaires, donc pour 7 écrans seulement, c'est très très compliqué parfois, notamment aussi à cause du fait qu'il y a pas mal d'animations au studio, hein. Il y a des festivals, il y a le CNP, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte pour établir notre grille de programme.
Alors vous évoquez justement les événements que vous proposez, vous faites notamment des rencontres avec des réalisateurs, est-ce que vous pouvez me parler de tout ce que vous faites un peu comme projet au-delà du film finalement, au-delà de la retransmission du film?
Bah, il y a ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire l'accueil de réalisateurs, réalisatrices, de comédiens, comédiennes. Ça, c'est assez régulier. Il y en a 2-3 par mois, ou moins ou plus. Ça dépend un petit peu des sorties de films. On tient beaucoup à ce que, et notre public aussi, à ce qu'il y ait rencontre entre les gens qui font le cinéma, qui fabriquent les films, et les spectateurs. Et c'est toujours très, très apprécié, hein. Ça apporte beaucoup ces séances-là. Ce n'est pas du people, c'est vraiment parler cinéma, ces soirs-là.
Du coup, ça attire, j'imagine, du monde, puisque c'est vrai que quand on est confronté aussi, j'imagine qu'il y a un débat aussi derrière, donc c'est vraiment pouvoir discuter finalement sur le film avec la personne qui l'a fait. Donc c'est vraiment pour le public ce qu'il y a de mieux pour être en immersion dans le film.
Et après, on participe à tout un tas d'événements et d'animations. Et déjà, toutes les semaines, on a la Cinémathèque. La Cinémathèque tous les lundis soirs. Tous les jeudis soirs, il y a une soirée CNP, donc le Cinéma National Populaire. Une soirée, on va dire, c'est le bras engagé politiquement des studios, donc qui va aborder différentes thématiques comme l'écologie, la géopolitique, enfin sur des sujets très, très variés. Et après, sur des événements annuels, on a la Nuit des Studios, qui est vraiment je trouve, le cœur de ce qu'est l'esprit, de ce que sont l'esprit des studios, où c'est à la fois festif, c'est un événement de qualité, et qui accueille autant des jeunes que des personnes moins jeunes. Enfin, c'est assez réjouissant comme événement, plus les festivals, donc le festival asiatique, le festival italien, Désir Désir. Donc on est assez occupé tout au long de l'année avec plus les venues des réalisateurs, on est assez occupé au studio. Ouais.
Est-ce que vous organisez des choses spécifiquement pour les enfants ? Est-ce qu'il y a des films qui sont prévus pour les enfants, des rencontres, des ateliers, je sais pas ?
Alors il y a une, donc ça marche par commission les studios, donc voilà, il y a une commission de programmation qui est la plus importante, qui fait la programmation du au mois des studios, et il y en a une, je crois qu'il y a 6 commissions en gros, et il y a la commission jeune public justement qui est attachée à ce public d'enfants. Et donc qui a une programmation aussi au mois sur des films jeunes publics. Et ils font aussi des animations autour de ça. Ils ont des partenariats avec des structures culturelles, avec le théâtre Olympia, etc. Autour des enfants.
Et cinéma scolaire.
Et le cinéma, oui, pardon. Oui. Et on fait partie des dispositifs scolaires, c'est-à-dire maternelle, école, collège, collégien, apprenti, lycéen au cinéma. Et ce qui correspond à 25 000 entrées par an en studio. Donc voilà, sur en gros 350 000 entrées par an au studio.
Le prochain événement, c'est une rencontre avec Joseph David, c'est ça, pour le film Pump, le 5 novembre. C'est ça, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ou il y aura d'autres événements juste après, juste avant?
Non, mais c'est juste. Oui,
c'est juste. Et voilà, c'est oui. Le dimanche. Et après le 5 novembre, c'est quel autre événement aura lieu?
Je crois qu'Anne Fontaine vient présenter son dernier film.
Oui.
Et puis après, il y en a d'autres.
Ouais.
Alors là, il aurait fallu nous demander d'apporter la liste.
Ouais. Le programme.
Vu le nombre, on vous conseille d'aller sur le site des Cinéma Studios. studiociné.com où il y a toutes les informations, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'événements studio, c'est dur de tous les dire ici à l'antenne.
Voilà, donc toutes les informations à retrouver sur votre site internet Cinéma Studio ou Studio Cinéma.
Alors c'est Studio Ciné, studiocine.com. Voilà.